Du coup, merci beaucoup d'être venus nombreuses et nombreux ce soir dans cette salle vraiment très chouette de l'écurie. Donc, on remercie au passage l'écurie pour de nous permettre d'organiser cette conférence. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas organisé d'événement ici et c'est un lieu assez incroyable et vraiment enrichissant, ressourçant. Et du coup, donc, ce soir, donc, on a le plaisir d'avoir avec nous Renaud Duterme, qui va donc, nous présenter son livre « Nos mythologies écologiques, déconstruire les idées reçues sur le changement climatique ». Il nous présentera ce livre et puis on pourra ensuite, justement, l'idée c'est d'avoir un débat participatif où, justement, donc n'hésitez pas à noter ou avoir un coin dans un coin de votre tête des questions ou réagir à certaines choses. Et puis ça sera aussi l'occasion, justement, de faire le lien avec les mobilisations qui se passent ici en Suisse, à Genève, de parler des prochaines mobilisations, puis comment les points, justement, qui sont soulevés dans son livre peuvent nous servir pour notre militantisme ou en général au quotidien autour de nous pour changer les choses, etc. Et puis aussi de faire des liens, c'est ce qu'on était en train de se dire, avec la situation en Belgique, parce qu'ici en Suisse on connaît malheureusement peu la situation en Belgique, qui est pourtant proche au niveau, tant au niveau spatial qu'en linguistique, et vice versa par rapport à la situation suisse. Donc ça sera intéressant d'échanger là-dessus. Pour les présentations, malheureusement, une personne qui devait intervenir, animer cette soirée, n'a pas pu venir. Mais la représentativité n'est pas excellente et il y a des hommes cisgenres autour de cette table. Là, on peut noter ça. Pour me présenter, donc moi c'est Théo. Je fais partie du groupe éco-socialiste, de la grève du climat et du collectif Break Free. Et puis je te laisse te présenter.
Donc bonsoir tout le monde, moi c'est Clément, surtout actif au groupe éco-socialiste et aussi un petit peu dans la GDC, grève du climat, pardon. Et voilà.
La conférence elle est co-organisée par le groupe éco-socialiste qui lutte justement pour une écologie sociale, et puis justement on pourra en discuter après, et ça fait écho évidemment. Pour nous c'était vraiment intéressant d'avoir avec nous Renaud Duterme pour présenter ce livre, parce que ça fait vraiment écho à beaucoup de questions qu'on se pose beaucoup et d'analyse de comment contrer certains discours qui sont omniprésents dans la sphère médiatique justement. Et puis c'est co-organisé aussi par la grève du climat qui donc se mobilise depuis 2019 dans les écoles, dans la rue, avec énormément de moyens d'action différents et qui fait beaucoup bouger les choses ici en Suisse, par le collectif Break Free, qui lutte pour la justice climatique et pour le désinvestissement des énergies fossiles, puisque la Suisse a une responsabilité énorme, la place financière suisse a une responsabilité énorme dans le réchauffement climatique. De nouveau, quelque chose qui n'est pas assez mis en avant à cause des mythologies écologiques. Et puis aussi le collectif des enseignantes et enseignants pour le climat, qui est un collectif justement qui fait écho, qui s'est créé suite à la grève du climat, et qui fait écho, qui réunit des profs qui se bougent pour le climat, qui aident les grévistes pour le climat, et puis qui se bougent aussi au niveau de l'enseignement et sur les lieux de travail là-dessus. Voilà un peu, pour ne pas faire trop long, je vais passer la parole à Renaud Duterme. Merci beaucoup d'être ici ce soir.
Merci à vous. Merci à tout le monde, merci aux organisateurs, en particulier à Juan qui m'a fait venir de Belgique du coup, et merci à vous d'être ici. Alors je me présente en deux mots. Donc je m'appelle Renaud Duterme, j'enseigne la géographie dans l'équivalent d'un lycée, comme ça a été dit tout à l'heure, donc je suis belge, personne n'est parfait, et voilà, à côté de ça, donc j'ai fait longtemps partie du CADTM, qui était le comité pour l'abolition des détis légitimes, et maintenant je co-anime un blog qui s'appelle Géographie en mouvement, avec justement un de vos compatriotes de Lausanne. Je sais pas s'il y a une rivalité Genève-Lausanne, je connais pas trop le contexte, mais voilà, en tout cas. Donc ça tombait bien, et du coup j'ai vraiment accepté cette invitation avec grand plaisir, et je suis très content d'être ici pour parler de ce livre. C'est la première fois que j'en parle, c'est la première fois que je le présente, puisqu'il est sorti il y a un mois. Donc voilà, j'espère que je connais bien ma leçon. Et ce que je vous propose, c'est de vous présenter l'origine et pendant quelques dizaines de minutes ce que j'ai cherché, de quoi je parle dans ce livre. Et puis après, privilégier un échange, des désaccords avec vous. Alors, donc ce livre, là, s'intitule donc Nos mythologies écologiques. Alors, pourquoi ce livre ? En fait, moi, ça fait maintenant, j'ai 35 ans, ça fait plus ou moins une bonne quinzaine d'années que je m'intéresse à toutes ces questions. Et donc que je lis énormément sur le sujet, j'écoute tous les débats que je peux à la télévision, à la radio, etc. À côté de ça, donc, j'enseigne la géographie, donc je suis amené aussi à évoquer toutes ces questions d'énergie, d'écologie, de réchauffement climatique. Et ce qui est intéressant, c'est que pendant ces 15 années, en fait, je remarque qu'il y a énormément de questions qui reviennent très régulièrement, il y a énormément d'affirmations qui sont dites comme ça, quels que soient les milieux, quels que soient les endroits. Et en fait, ces affirmations, soit elles sont complètement fausses, ou soit en tout cas, elles le sont partiellement, c'est-à-dire qu'elles sont fortement nuancées. Et en fait, ces idées, elles sont... Alors, d'une part, elles proviennent de gens qui s'interrogent vraiment, qui se posent vraiment la question de bonne foi. Et ce qu'on remarque aussi, c'est qu'il y a toute une série de ces affirmations, elles sont volontairement propagées par certains acteurs qui ont tout intérêt à ce que rien ne change. Que ce soit des acteurs médiatiques, des acteurs économiques, des acteurs de la finance, des acteurs politiques, etc. etc. Et donc l'idée, c'était d'amener un petit travail de déconstruction. Alors j'en ai pris 25, en sélectionnant un peu. Ça a été assez facile de les sélectionner, parce que je vous dis, c'est vraiment des phrases qui reviennent très régulièrement. Donc ça, le travail n'a pas été très compliqué. Et l'idée ici, essayer de déconstruire, ou en tout cas de nuancer, 25 affirmations. Alors que j'ai nommé des mythologies écologiques, en fait c'est un petit clin d'œil à un autre livre qui est sorti il y a quelques années à la même maison d'édition, qui sont les liens qui libèrent, qui est un économiste qui s'appelle Éloi Laurent, qui a écrit lui deux livres qui s'appellent Nos mythologies économiques, et dont l'objectif était de déconstruire, même chose, des idées sur l'économie, sur le néolibéralisme, qui sont propagées un peu partout, et qui sont soit fausses, soit encore une fois à nuancer. Donc l'idée, j'avais en tête de faire ça pour l'écologie. Et j'en ai parlé à mon éditeur qui a accepté directement. Le livre est sorti il y a un mois, donc je ne sais pas exactement le succès, ou en tout cas les retours que ça ira. Donc j'attends pour ça. Alors, je vais pas vous présenter les 25 mythologies, forcément, je pense que ce serait un peu rébarbatif, mais juste pour que vous voyez un peu la trame. Alors j'ai une espèce de grille de lecture comme ça, qui divise le livre en quatre parties, en fait. Et quand on remarque toutes les idées reçues sur l'écologie, les idées qui reviennent, mais souvent, il y a déjà toute une série qui ont attrait à l'histoire. C'est-à-dire que souvent, on utilise un peu l'histoire, d'ailleurs pas qu'en écologie, pour justifier certaines choses qu'on ferait maintenant ou qu'on ne devrait pas faire, ou en tout cas pour nuancer ou relativiser un certain problème, etc. Et donc l'idée en gros de cette partie sur l'histoire, c'est de dire, vous avez certainement déjà entendu des phrases de ce style, que de toute façon toutes les sociétés humaines ont dégradé leur environnement, c'est dans la nature humaine de bousiller son environnement, et donc une fois qu'on entend ça, on voit directement un peu le piège, c'est-à-dire on voit qu'on ne peut pas en faire grand-chose. C'est comme ça, nous sommes une espèce intrinsèquement destructrice, et donc à partir de là, il n'y a pas grand-chose à faire. Et en fait, quand on regarde ce récit, il est quand même fortement nuancé, voire dans certains cas totalement faux. C'est-à-dire que il ne faut pas nier non plus, clairement, nous sommes une espèce, de par nos facultés, de par notre organisation à grande échelle, qui arrive à influencer l'environnement de manière beaucoup plus importante que la plupart des autres espèces. Je pense que ça, tout le monde est d'accord avec ça. Maintenant, ce qu'on remarque aussi quand on regarde l'histoire humaine, c'est que dans l'immense majorité de cette histoire, c'est-à-dire quasiment 99%, les impacts écologiques ont été relativement minimes. En particulier quand on était chasseur-cueilleur, mais même après, même si des civilisations antérieures, on parle souvent, vous avez certainement déjà entendu parler du concept d'effondrement, où certaines sociétés se seraient effondrées en ayant déglingué leur environnement. Alors c'est arrivé, on parle des Mayas, on parle de l'île de Pâques, on parle de toute une série de civilisations. Encore que même, il y a des choses à discuter. Mais ce qu'on remarque, c'est que dans l'immense majorité de l'histoire humaine, les dégradations étaient locales, et elles étaient relativement circonscrites dans le temps et dans l'espace. Donc en gros, on remarque que la grande majorité des civilisations ou des sociétés humaines antérieures ont réussi à vivre vaille que vaille avec leur environnement, sans foutre tout en l'air. Et en fait, quand on parle de crise écologique actuelle, de crise économique majeure, écologique majeure et globale, on remarque qu'en fait, c'est relativement récent. Alors, il y a toujours un peu des dates, vous connaissez le concept d'anthropocène, on ne sait pas vraiment quand est-ce qu'on peut le faire commencer, mais ce qui est certain, c'est que la crise écologique est vraiment rentrée dans une dimension globale il y a plus ou moins 5 siècles. à partir de ce qu'on a appelé la mondialisation. Je vais vite, hein, on ne va pas vous faire un cours d'histoire ici. Et surtout avec l'avènement d'un système économique particulier qu'on appelle le capitalisme. Et en fait, quand on remarque, c'est à partir de ce moment-là, à partir du moment où les rapports sociaux capitalistes se sont établis, d'abord en Europe et puis dans les différents continents avec la colonisation, c'est là qu'on va commencer à voir que les dégradations écologiques vont s'accentuer, vont se diversifier également, puisque antérieurement, quand une société bousillait son rang de l'environnement, c'était souvent de la même façon. En gros, c'était en épuisant, en déforestant, en épuisant les sols, etc. Ce qu'on remarque, c'est qu'avec l'avènement du capitalisme, et en particulier aussi dans sa phase après la révolution industrielle, c'est que les dégradations vont être multiples. Et donc, je ne vais pas vous faire la liste ici, mais on sait très bien, réchauffement climatique, la pollution chimique, la pollution des eaux, la pollution des sols, l'extinction de la biodiversité, bref, toute une série, la crise écologique va vraiment rentrer dans une dimension beaucoup plus large, beaucoup plus globale, et chose inédite également, c'est que cette crise écologique, elle va toucher le monde entier. Et donc, quand on fait, c'est ce que j'essaye de faire en quelques pages, quand on refait cette histoire, en fait, on remarque qu'il n'y avait rien d'inéluctable là-dedans. Et que si l'humanité a suivi cette trajectoire-là, ben, c'est avant tout parce qu'il y a, encore une fois, un rapport social qui s'est mis en place, les rapports socio-capitalistes, et il n'y avait rien d'inné, il n'y avait rien d'inéluctable là-dedans. On entend souvent que le capitalisme était un peu la destinée originelle de l'humanité, et pas du tout, même si l'être humain a commercé pendant de nombreux siècles, mais un système comme le capitalisme dans lequel la dimension économique prend le pas sur toute la société, c'est relativement inédit, et ça n'a pu s'imposer que par la force. Donc quand on voit ça, ben, on remarque en gros que voilà, il y a toute une série de mythologies historiques qui peuvent être déjà balayées d'un revers de main quand on analyse un peu l'histoire de manière beaucoup plus globale et de manière beaucoup plus systémique. Quelque chose qui revient aussi souvent par rapport à l'histoire, vous avez certainement déjà entendu ça, c'est que dès qu'on critique le capitalisme du point de vue écologique, ce qu'on rétorque très très régulièrement, j'entends souvent dans des débats, c'est oui mais regardez les pays communistes, vous avez vu ce que ça a donné, alors on nous parle de la catastrophe de Tchernobyl, de l'assèchement de la mer d'Aral, etc., toutes des choses qui sont véridiques. Alors ça aussi, j'essaye de donner un peu quelques éléments de réponse rapides, hein. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Ben, d'une part, c'est que les expériences communistes, si on pense à l'URSS, à la Chine, maoïste, etc., je ne sais pas si vraiment on peut les appeler communistes. On a une espèce de communisme qui était quand même relativement dégénéré, qui ne correspond pas vraiment à ce que aux écrits communistes de Marx, etc. Et donc, clairement, il faut admettre, hein, les bévues écologiques, je ne sais pas si vous vous rappelez, s'il y en a ici, il y a notamment une campagne assez folle orchestrée par Mao Tse-tung d'éradication des oiseaux. Donc, on encourageait le peuple à épuiser les oiseaux en faisant du bruit en permanence parce que les oiseaux allaient manger les fruits des arbres, etc. Sauf que les oiseaux ne mangeaient pas non seulement les fruits des arbres, mais également les insectes qui également aussi mangeaient le fruit des arbres. Donc ça s'est traduit par une famine, enfin bref, c'est juste une petite bévue comme ça, mais c'est pour vous montrer clairement, il n'est pas question ici de dire que les régimes communistes étaient respectueux de l'environnement. Maintenant, une fois qu'on dit ça, c'est que quand on regarde les textes initiaux, les textes de Marx, etc., c'est des textes qui ont deux siècles, hein, donc on ne parle pas d'écologistes avant l'heure, mais en tout cas, il y a toute une série de mises en garde sur les liens entre le capitalisme et l'écologie. Et notamment une célèbre phrase, hein, qui dit que voilà, le capitalisme épuise les deux seules sources de richesse que sont les travailleurs et la terre. Et en fait, quand on regarde un peu, quand on réanalyse l'œuvre de Marx ou d'autres penseurs de l'époque, on arrive à avoir un peu une analyse qui est assez pertinente et dont de nombreux écologistes devraient un peu prendre en compte, parce que ce que beaucoup d'écologistes ne comprennent pas, c'est qu'on ne peut pas comprendre la crise écologique maintenant sans comprendre, encore une fois, les mécanismes de notre économie capitaliste. Donc voilà, un petit détour comme ça pour l'histoire. Donc voilà, je vous passe un peu les autres, mais il y a 4-5 mythologies comme ça que j'essaye de déconstruire. Deuxième série, c'est, je vous avais dit que j'enseignais la géographie, donc je m'intéresse beaucoup à la dimension spatiale du problème. Et en fait, l'écologie, on ne peut pas la comprendre non plus sans sa dimension spatiale. Et il y a toute une série de mythologies aussi qui reviennent par rapport à ça. Et notamment, sous l'angle de vue que, en fait, c'est pas nous le problème, c'est les autres. Et en particulier un autre pays que vous connaissez tous et qu'on entend souvent, qui est le grand responsable actuel, qui est la Chine. Donc ça, c'est souvent, je l'ai encore entendu cette semaine, où voilà, à quoi bon faire quelque chose, de toute façon, c'est la Chine le problème, et c'est partiellement vrai, puisque quand on regarde une carte. Hein, donc moi, je vois souvent cette carte dans mes cours avec les émissions de CO2 par pays. Ben, on voit que la Chine, depuis quelques années, arrive loin en tête. Et donc, ben, voilà, pourquoi la France est quelques pourcents, la Suisse et la Belgique, n'en parlons pas. Donc, ben, c'est pas nous le problème. Alors, encore une fois, cette mythologie n'est pas totalement fausse, mais elle occulte toute une série de choses. Et du coup, elle biaise un peu le propos. Parce que ce qu'il faut déjà tenir compte quand on parle de réchauffement climatique, c'est que c'est des dynamiques sur du long terme. C'est-à-dire que les émissions de CO2 qui provoquent le réchauffement climatique actuel, elles proviennent pas de cette année pour la plupart. Elles ont été émises il y a plusieurs années, voire plusieurs décennies. Or, il y a quelques décennies, la Chine n'était en rien responsable du réchauffement climatique, puisque c'était un pays qui était relativement pauvre, très peu industrialisé, très peu économiquement développé, enfin je mets développé entre guillemets. Et par contre, donc, si on prend la responsabilité historique, on arrive directement déjà à des chiffres complètement différents. Où là, on a vraiment les pays essentiellement riches, l'Europe, l'Amérique du Nord, le Japon, un peu l'Australie, la Nouvelle-Zélande, qui sont nettement plus responsables des émissions de CO2 dans leur globalité. Deuxième nuance également, c'est que ce qu'on oublie souvent, c'est qu'une grande partie des émissions de CO2 de la Chine proviennent de son secteur industriel qui sert à fabriquer des biens qui sont à destination d'autres pays, à commencer par les pays riches. Et donc ça, c'est pour ça que je pense qu'on ne peut pas comprendre la crise écologique globale et donc des solutions sans parler de géographie, parce que ça aussi, et ça a été un tour de passe-passe de nombreux pays riches, à commencer par l'Union européenne, de dire que depuis quelques années, c'est bien, on a réduit nos émissions de CO2 industrielles. Oui, comment ? En délocalisant la production et donc en délocalisant les nuisances. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment fondamental, c'est que on remarque en fait que à la place de résoudre un problème, on le déplace simplement bien loin de nos lieux de consommation. Et ça, c'est vraiment, à mon sens, un point fondamental pour comprendre la légitimité du capitalisme. Ça, j'en suis persuadé, que si le capitalisme a encore une grande légitimité dans nos pays, c'est parce que les effets négatifs de ce mode de production sont systématiquement délocalisés, en particulier dans des pays plus pauvres. Donc ce qu'il faudrait faire quand on regarde la responsabilité des pays en termes d'émissions de CO2, il faudrait essayer d'avoir d'autres calculs, pas uniquement la production, mais également aussi la consommation de biens. Et là, on arriverait à des chiffres et à des tendances complètement différentes. Et puis, troisième petite nuance aussi, quand on parle de la Chine, c'est quelque chose aussi, quand on regarde la belle carte avec les émissions de CO2 par pays, on ne tient pas compte de la population. Et donc, on oublie souvent que la Chine, c'est 1 milliard, quasiment 1 milliard et demi d'habitants. C'est, on va dire, un terrien sur 5. Et donc, forcément, si on prend le poids par habitant, on arrive aussi à des chiffres qui sont complètement différents. C'est somme toute logique que la Chine soit le premier émetteur de CO2, puisque c'est le pays qui est le pays qui est le plus peuplé et de loin. Donc bref, c'est des bêtes petites choses comme ça, mais c'est souvent, on oublie, et encore une fois, je l'ai encore entendu cette semaine dans les radios, voilà, on vous balance ça, on vous balance la Chine, et comme ça, ça permet, voilà, on ferme les yeux, on se met un peu des œillères, et comme ça, c'est pas nous le problème, c'est les autres. Et pourtant, il suffit de faire quelques petites recherches et de réfléchir un tant soit peu pour comprendre que cette phrase peut être considérée comme une mythologie. Alors, autre point très important lié à la géographie, vous avez certainement déjà entendu aussi, c'est la surpopulation. Le problème, c'est qu'on est trop nombreux sur Terre. Je crois que je n'ai jamais participé à un débat sur le sujet sans que quelqu'un n'amène cette question sur la table. Alors de nouveau, c'est pas totalement faux. Hein. On est 8 milliards sur Terre. Forcément, je pense que le problème serait plus facile à résoudre si on était quelques centaines de millions. Maintenant, souvent, de manière sous-jacente, derrière cette question, quand on dit on est trop nombreux, c'est souvent que les pauvres font un peu trop d'enfants. Puisqu'on sait que dans nos pays, le nombre d'enfants en général par couple est relativement bas. Nos populations sont en train de stagner. Donc on sait que les populations qui ont fortement augmenté ces dernières décennies et qui vont encore le faire, c'est les pays d'Afrique subsaharienne, l'Inde, etc. Et donc à partir de là, encore une fois, cette phrase, chez certaines personnes, elle peut peut-être être honnête. C'est vrai que des gens se posent vraiment la question. Mais chez d'autres, c'est un discours qui est un peu propagé pour dire, encore une fois, les responsables, c'est pas vraiment nous, c'est les Africains, c'est les Indiens, parce qu'ils font trop d'enfants. Alors, là aussi, il y a pas mal de choses à dire par rapport à ça. D'une part, il y a déjà, ça je pense que c'est quelque chose qui est quand même relativement connu dans les milieux militants, c'est que sur les 8 milliards d'habitants, en fait, il y en a quelques centaines de millions qui sont responsables du gros de la catastrophe, et en particulier les plus riches. Non seulement les plus riches dans les pays les plus riches, mais même les plus riches dans au sein de chaque pays. C'est-à-dire les classes sociales qui ont un mode de vie complètement débridé, qui prennent l'avion beaucoup plus que la normale, qui ont des maisons beaucoup plus grandes que celles que la normale, etc., etc. Donc, en général, si on remarque, en Afrique subsaharienne, la majorité des gens, ceux précisément qui font beaucoup d'enfants, bah, souvent vivent dans des villages où il n'y a pas d'électricité, ils n'ont pas de voiture, bref, ils ont un mode de vie qui est relativement durable, entre guillemets, pour donner un terme très à la mode. Et puis il y a quelque chose qu'on oublie aussi quand on parle de la démographie, c'est que, en fait, ces dernières décennies, la natalité est en baisse partout. C'est-à-dire que partout dans le monde, les femmes font moins d'enfants. C'est comme ça. Alors chez nous, je vous dis, c'est assez flagrant, mais même dans des pays où les femmes font encore beaucoup d'enfants, elles en font de moins en moins. Donc la natalité est en baisse partout et la croissance démographique est en baisse partout. L'essentiel maintenant de l'augmentation de la population, ben c'est l'augmentation de l'espérance de vie. Et quand on prend le problème, entre guillemets, ou la question sous cet angle-là, ben on arrive déjà à un petit malaise, parce que le problème, c'est pas que les gens font des enfants, trop d'enfants, c'est que les gens vivent trop vieux. Et donc à partir de là, si on considère que la surpopulation est le problème, ben il n'y a pas 36 solutions. Il faut que les gens meurent plus vite. Donc il faut supprimer ou en tout cas réduire une partie de la population. Alors certains préconisent ça. Vous avez certains mouvements d'extrême droite aux États-Unis qui préconisent ça ouvertement. Bon, la majorité ne vont quand même pas jusque-là. Mais donc quand on a ça, ben, on se rend compte en fait que voilà, on a 8 milliards de personnes. Ça ne va pas faciliter les choses. Mais maintenant, voilà, les gens sont là. Si on, à partir du moment où on n'envisage pas des solutions barbares ou des solutions de politique antinataliste, etc., ben on voit qu'on ne sait pas faire grand-chose. Donc du coup, ben voilà, il va falloir faire avec. Et alors, dernier point aussi par rapport à ça, c'est que quand on parle pour les gens qui sont vraiment qui sont acharnés sur cette question de la démographie, en fait, il suffit de se pencher aussi sur un modèle qui est bien connu des géographes, qui est le modèle de la transition démographique, qui dit simplement, en gros, que si on veut qu'une population se stabilise, ben, il faut simplement que les conditions socio-économiques de la population s'améliorent. C'est-à-dire qu'il y ait des systèmes de sécurité sociale, de retraite, des systèmes d'éducation des filles, des systèmes où la contraception est relativement accessible. Donc bref, une fois que les conditions matérielles d'une population se stabilisent, ben, en général, le nombre d'enfants diminue automatiquement, tout simplement parce que l'enfant ne devient plus un besoin, entre guillemets, mais simplement dans la plupart des pays riches maintenant, ben, la majorité des gens font des enfants parce qu'ils en ont envie, tout simplement. Et donc, si vraiment, et ça, c'est quelque chose, c'est assez fou, parce que la majorité des gens qui mettent cette question de la démographie comme première cause du problème, c'est souvent des gens qui ont des tendances très libérales, très de droite, et qui n'envisagent jamais des politiques de redistribution des richesses, alors que c'est justement ces politiques de redistribution des richesses qui auront comme effet indirect de stabiliser la population chez les plus pauvres. Donc voilà, donc ça c'est aussi voilà, quelques petites idées comme ça, si jamais vous êtes dans un repas de famille et que vous avez... un tonton hein, qui a bu un verre de trop et qui vous dit qu'on est trop nombreux, bah, j'essaye de balancer comme ça quelques petites idées qui peuvent essayer de nuancer tout ça. Alors, deux choses encore. Donc, troisième partie. Alors là, quelque chose aussi dont vous avez certainement déjà eu à faire, c'est le débat sur la le débat sur la technologie. C'est-à-dire qu'en gros, bah, voilà, là, c'est un petit peu différent parce que là, on admet le problème. Bon, le problème est grave, etc., mais il n'y a pas de souci. Depuis deux siècles, on a toujours trouvé des solutions technologiques, et donc on en trouvera encore. C'est quoi ces technologies? Alors, c'est le nucléaire, c'est l'hydrogène, c'est la fusion nucléaire, c'est le numérique, comme tout le monde le sait, est dématérialisé. Bref, c'est toute une série de technologies, les renouvelables dans certains cas, et en gros, qui nous permettront de vivre comme maintenant, en fait. On ne va pas changer grand-chose, on aura simplement une variable technologique qui va nous permettre de continuer comme maintenant. Alors, je le dis tout de suite, parce que pareil, dès qu'on nuance ça, on se fait taxer de technophobe. Hein. Vous vous souvenez, le président d'un grand pays voisin qui disait qu'en gros, bah, ceux qui avaient cette posture-là, bah, c'était des Amish qui prenaient le retour à la bougie. Bon, je ne suis pas pour le retour à la bougie, hein, d'accord. Donc, je pense que des solutions technologiques existeront. Vont permettre d'améliorer certaines choses, mais encore une fois, en fait, il faut prendre un peu le problème dans sa globalité, et le problème aussi du débat sur la technologie, c'est qu'on est vite noyé. Il suffit que on parle du nucléaire, vous avez un ingénieur qui maîtrise les chiffres et vous ne les maîtrisez pas, et hop, on vous noie vite derrière 4 chiffres, etc., 4 tendances, et voilà, si on n'est pas ingénieur nucléaire, on ne comprend pas grand-chose, et donc on n'a pas vraiment de réponse. Et pourtant, il y a des réponses qu'on peut apporter indépendamment, en fait, de toute technologie. C'est-à-dire que de nouveau, beaucoup de gens ne comprennent pas que la technologie, en tant que telle, En fait, une technologie ne s'inscrit déjà que dans un rapport social. C'est-à-dire qu'une technologie en elle-même n'est pas une solution ou un problème en soi, à part certaines, mais la majorité des technologies dépendent vraiment de ce qu'on en fait. Y a un exemple historique assez intéressant, c'est la machine à vapeur, en fait, ou même les machines en général. Théoriquement, dans un contexte, vous demandez ça à un gamin de 6 ans ou une gamine de 6 ans, une machine qui va faire un travail plus vite, etc., ça sert à quoi ? La machine va faire le travail à ma place et moi, je vais pouvoir me reposer. Sauf que dans un contexte, encore une fois, capitaliste, c'est pas comme ça que ça marche. C'est que la machine va permettre de produire encore plus, de produire tout le temps, et va encourager de faire travailler les gens beaucoup plus et beaucoup plus longtemps. Donc au-delà de cet exemple-là, c'est pour vous dire qu'une bête technologie, comme une machine par exemple, selon l'utilité qu'on en fait, ou selon le contexte social dans lequel elle se trouve, on va avoir deux utilisations complètement différentes. Alors autre problème avec la technologie aussi, qui est souvent que les partisans de la technologie oublient, c'est que toutes les technologies ont des conséquences qui ne sont pas prévues, ce qu'on appelle des externalités. Et donc ça aussi, que quelles que soient les technologies, alors ces externalités, encore une fois, souvent on les masque en les mettant ailleurs. C'est l'exemple en gros des énergies, du problème de l'énergie. On voit maintenant le casse-tête un peu que c'est de changer notre mix énergétique. Et en fait, ce qu'on remarque, c'est que quelles que soient les énergies, ces externalités sont très rarement évoquées. Encore une fois, parce qu'elles ont lieu ailleurs. C'est l'exemple des renouvelables et c'est l'exemple du nucléaire aussi. Le nucléaire, je ne sais pas si vous avez remarqué, moi c'est quelque chose qui me frappe, c'est que dans les débats sur le nucléaire, il n'est jamais question il n'est jamais question de l'extraction de l'uranium. On ne dit jamais, est-ce que ça, enfin, on dit c'est une énergie propre. Alors oui, c'est une énergie propre parce que ça n'émet pas de CO2. Mais par contre, voilà, allez voir une mine d'uranium, on va voir le résultat. Alors en plus, souvent, de nouveau, c'est dans des pays qui sont relativement pauvres, donc en plus où les normes écologiques ne sont pas vraiment respectées. Donc c'est quelque chose qui n'intéresse pas grand monde. Même chose pour les renouvelables, en fait. On sait que pour fabriquer une éolienne, pour fabriquer un panneau solaire, on a besoin de toute une série de minerais, du graphite, du graphite, du cobalt, etc., dont l'extraction pollue énormément, dont l'extraction se fait dans des conditions sociales effroyables, mais c'est quelque chose dont on n'évoque jamais vraiment, encore une fois, parce que c'est pas chez nous. Donc si on voulait vraiment avoir un débat serein sur la technologie, c'est vraiment essayer de se poser toute la question de ces externalités, et en particulier quand elles ont lieu ailleurs. Et puis dernier point avec la technologie que beaucoup de gens oublient, je pense que c'est peut-être un des arguments les plus forts contre cet argument du tout technologique, c'est que quand bien même une technologie révolutionnaire se mettrait en place, c'est qu'il y a toujours un délai entre l'existence de cette technologie et sa mise en place à grande échelle. C'est ce qu'on appelle l'effet parc en général. C'est-à-dire que l'exemple typique, c'est la voiture électrique. Alors la voiture électrique, est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est une voiture électrique pollue moins qu'une voiture thermique ? Je n'ai pas les chiffres. Je dis, c'est ça le problème, c'est que vous avez déjà des ingénieurs qui vont vous dire oui, d'autres non. Mais indépendant de ça, c'est pas ça la vraie question. La vraie question, c'est est-ce que c'est envisageable de remplacer le milliard de voitures sur Terre par un milliard de voitures électriques ? Et en fait, quand on pose la question, là, on voit déjà directement le problème. C'est-à-dire que d'une part, il n'y aura pas assez de ressources. D'autre part, on va voir est-ce qu'on peut se les payer. Ça veut dire qu'il va falloir changer toutes nos infrastructures, la fabrication, la réparation, l'approvisionnement d'électricité. Bref, est-ce que c'est vraiment souhaitable de faire ça ? Et en fait, poser la question, c'est y répondre, puisque écologiquement, ce serait un désastre. Dire ça, c'est pas dire on est contre la voiture électrique, parce que c'est ça le problème en écologie, comme dans bien des domaines, c'est que maintenant on est fort manichéen, quoi. Soit on est pour, soit on est contre, pour renouvelable, contre renouvelable, pour éolienne, contre... etc. Et la question n'est pas là. C'est simplement de dire, voilà, la voiture électrique peut faire partie de la solution dans certains cas, dans certains contextes, mais est-ce que c'est envisageable de remplacer toutes les voitures par des voitures électriques ? Surtout qu'encore une fois, je reviens avec mon idée de la géographie, ce qui va se passer et ce qui est déjà en train de se passer, c'est que c'est en particulier dans les pays riches où on encourage les automobilistes à acheter des voitures électriques. Qu'est-ce qu'on va faire des anciennes voitures thermiques ? On va les envoyer dans des pays pauvres, en général. Et donc, rouler, nous, uniquement dans des voitures électriques, c'est condamner des pays beaucoup plus pauvres, en particulier en Afrique, à rouler dans nos vieilles bagnoles qui polluent. Et donc, de nouveau, c'est se faire un petit ersatz avec un bon air bien pur en allant foutre en l'air d'autres pays. Donc, vous voyez que c'est toutes des questions un peu à se poser. Et ça, en général, les partisans de la technologie sont assez mal à l'aise avec ce genre de questions parce que, de nouveau, c'est des questions... En fait, c'est souvent beaucoup de partisans de la technologie, en particulier dans le monde des ingénieurs, je généralise pas, mais en tout cas, les plus médiatiques, occultent systématiquement la question sociale. Et encore une fois, c'est ça le problème, c'est qu'on ne peut pas envisager la question de l'écologie sans cette variable sociale. Ça va, je vous endors pas ? Non. Alors je vais terminer. Donc voilà, ça, alors voilà, dans la technologie, bah, j'essaie d'égratiner un peu. Donc le numérique aussi, enfin on peut en parler. Je vais pas citer les 25 mythologies, mais voilà, vous aurez un peu compris le propos. Alors dernière partie qui est la plus importante, c'est ce que j'ai appelé les mythologies futurologiques, c'est-à-dire bon, le terme est un peu barbare, mais c'est de dire souvent on voit un peu, mais on essaye de se projeter. Et de nouveau, quand on se projette, il y a toute une série d'idées souvent reçues qui visent un peu à casser le débat. Par exemple, dès que vous parlez de décroissance, on vous dit, voilà, décroissance, de toute façon, c'est le chômage. La décroissance, en gros, on sait bien, c'est ce qui s'est passé au début du confinement, hein, puisqu'on a eu une décroissance, donc c'est ça la décroissance. Bon, je pense qu'ici, la majorité des gens savent que la décroissance va un peu au-delà de ça. On pourra en rediscuter pendant le débat. Alors, il y a d'autres choses également aussi, dès qu'on parle de planification, par exemple. Vous savez, théoriquement, pour que nos pays basculent dans une transition écologique, il va falloir planifier. Alors si on planifie, on est encore une fois des infâmes communistes. Certains parlent souvent de Khmer vert. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. J'avais lu un livre de Luc Ferry. Bon, je sais bien que ce n'est pas la référence, mais bon, voilà. Et lui, il emploie souvent ce terme-là. Voilà, il considère que la plupart des écologistes sont des Khmer verts. Bref, mais donc tout ça, c'est des affirmations un peu à l'emporte-pièce, on pourra les déconstruire après. Mais ce que je voulais juste, il y en a une que je voulais vraiment un peu mentionner, parce que celle-là, à mon avis, fait beaucoup de dégâts, c'est que l'écologie, en fait, est une question de gestes individuels. C'est-à-dire qu'en gros, on le sait, on nous enjoint quotidiennement à changer nos comportements. Le problème, c'est que les gens ne changent pas leur comportement. Les gens roulent en voiture, les gens mangent trop de viande, les gens partent en vacances, etc. Et donc, c'est ça le problème. Alors, bon, de nouveau, hein, bah, évidemment, ça fait partie du souci, clairement. Je pense que la plupart ici, en tout cas la majorité des gens, en fait, écolo ou pas, essayent quand même d'avoir des gestes qui sont du bon sens, je pense, hein, pour la plupart. Mais ça, c'est quelque chose qui me dérange beaucoup, moi, de réduire l'écologie à cette dimension. Déjà, ça traduit vraiment le succès de l'idéologie néolibérale, puisque vous connaissiez peut-être une des phrases de Margaret Thatcher qui disait il n'y a pas de société, il n'y a que des individus. Donc c'est vraiment... tous les changements ne peuvent être le fait que d'un individu. Donc moi, c'est déjà quelque chose qui me pose problème, parce que je suis persuadé du contraire. Et alors, le problème, ce qui me dérange le plus dans cette histoire de gestes individuels, oui, déjà, il y a une association en France qui s'appelle Carbone 4, que vous connaissez peut-être, qui, en gros, s'est amusée à faire des calculs. Bon, je ne sais pas trop ce que ça vaut, mais je cite juste leur rapport. Ils disent, en gros, que, ça, pour la France, mais je pense qu'en Suisse ou en Belgique, on est plus ou moins dans le même truc, c'est que si tous les Français adoptaient vraiment des comportements individuels vertueux, enfin, feraient ce qu'il faudrait faire, ce serait seulement un quart des émissions de CO2 de la France qui seraient, entre guillemets... qui serait résolu, quoi. Donc ça veut dire qu'en gros, ben, les trois quarts du problème seraient encore là, parce que ben, on sait que la grande majorité des émissions de CO2, ce sont les industries, c'est l'agriculture intensive, bref, c'est des secteurs qui dépassent la dimension de l'individu. Mais alors, ce qui me dérange moi beaucoup avec ces gestes individuels, c'est que en fait, c'est assez, et je pense que c'est un des grands échecs de l'écologie politique de ces dernières décennies, c'est que ça a une dimension culpabilisatrice, c'est en gros qui emmerde le monde. C'est-à-dire que ça ne tient pas compte, en fait, des réalités sociales dans lesquelles vivent les gens. C'est-à-dire que maintenant, quand on regarde, la seule écologie qui est valorisée, en particulier dans les médias, c'est une écologie qui est réservée à des classes privilégiées. C'est-à-dire, c'est mettre des panneaux solaires, c'est aller faire ses courses hors des supermarchés, c'est faire de l'écotourisme. Enfin bref, c'est toute une série de choses, c'est ça qui est valorisé. C'est acheter une voiture électrique, par exemple. Toutes les choses qui, on ne parle que ça, c'est l'écologie qui est valorisée systématiquement. Alors je critique pas tout ça, évidemment, je suis le premier à le faire, hein. Enfin à essayer en tout cas, autant que je peux. Mais c'est une écologie qui est réservée à ceux qui en ont les moyens. Et en fait, l'écologie des classes populaires n'est jamais évoquée parce qu'elle ne s'appelle pas comme ça. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est-à-dire que les classes populaires, de par leur mode de vie, de par leur précarité, ont déjà un comportement écologique, entre guillemets, exemplaire. Alors, je ne fais pas l'éloge de la pauvreté ici. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, quand vous n'avez pas beaucoup d'argent, ben, en général, vous allez avec votre voiture jusqu'au bout, vous avez une plus petite maison, vous partez, beaucoup de Français, de Suisses ou quoi, ne prennent jamais l'avion, etc. Vous avez une série de comportements qui, là, ne sont jamais valorisés. C'est-à-dire que les seules fois où on parle des classes populaires, c'est plus pour les culpabiliser en disant c'est des gens qui mangent trop de viande, c'est des gens qui vont faire leurs courses dans les supermarchés, etc., etc. Et ça, je pense que c'est le gros problème, et c'est aussi ce livre, en fait, il s'adresse, bah, dans l'idéal, évidemment, à des non-convaincus, même si on sait, quand on écrit un livre sur le sujet, c'est souvent des convaincus qui vont le lire, mais il s'adresse aussi, justement, peut-être à une certaine frange de l'écologie, et pour essayer de les amener à se remettre en question. C'est-à-dire qu'en particulier, quand on regarde un peu beaucoup d'écologistes médiatiques, etc., qui ont souvent un mode de vie et une empreinte écologique beaucoup plus élevée que la moyenne, et qui ont un espèce de discours comme ça en donneur de leçons, en particulier des classes populaires, et ça, c'est pas audible. C'est plus audible, et les gens en ont ras-le-bol. Et avec raison, parce que même moi qui suis un écologiste convaincu, quand j'entends, je cite jamais de nom dans le livre, mais là, vu qu'on en discute, mais quand j'entends Yann Arthus-Bertrand qui a passé sa vie en avion et qui maintenant vient culpabiliser les gens en disant qu'ils bouffent trop de viande et tout, et alors le gars à 74 ans vient de dire maintenant je prends plus l'avion, enfin, je veux dire, ça vous fait rire, enfin, c'est vrai que. Mais c'est vraiment quelque chose qui est... Enfin, je pense que c'est un gros... Ça fait partie vraiment du problème. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose, je pense, que l'écologie doit vraiment se remettre en question et essayer de voir, justement, dans la dimension populaire, certains combats écologistes. Il y a un truc aussi, vous vous souvenez des Gilets jaunes? Les Gilets jaunes, bon, vous savez tous, hein, c'était des ploucs qui voulaient juste rouler en voiture et qui n'en avaient rien à foutre de l'écologie. En gros, c'est quand même comme ça qu'on les a beaucoup présentés dans la plupart des médias. Et en fait, quand on regarde, c'était un mouvement très épars, hein, comme vous le savez, il y avait pas mal de revendications, mais il y a pas mal de revendications qui reviennent dans la plupart des mouvements régionaux de Gilets jaunes. Et en fait, quand on regarde ces revendications à la lettre, ben, c'est quoi? C'est notamment la fin des zonings commerciaux. C'est arrêter de délocaliser les industries, essayer de redynamiser la vie dans les campagnes, avec des services publics de proximité, arrêter de concentrer tous les boulots dans les villes. C'est essayer, avec des taux d'imposition qui sont beaucoup plus justes, toute une série de revendications qui, quand on y réfléchit, en fait, sont des revendications écologistes. C'est juste qu'elles ne s'appellent pas comme ça, mais quand on regarde, redynamiser les campagnes, par exemple, ce sera beaucoup plus efficace, notamment pour l'environnement, que de promouvoir la voiture électrique. Revaloriser des services publics de proximité avec des maternités, des bureaux de poste, des emplois, etc. Ça permettra de mettre moins de gens sur les routes. Et donc ça, c'est toutes des choses comme ça. Et malheureusement, l'écologie dominante n'y a jamais vu ça. Ils sont contentés. Alors on a vu, hein, l'écologie dominante était assez mal à l'aise avec les gilets jaunes parce que ils n'ont pas dit que c'était des ploucs, mais en tout cas, on n'était pas à l'aise parce que c'était quand même des gens qui revendiquaient de pouvoir rouler en voiture, en fait. Mais on ne s'est jamais posé la question pourquoi est-ce qu'ils voulaient rouler en voiture. Moi, je viens d'une zone rurale, par exemple, en Belgique. Essayer de vous passer de la voiture dans une zone rurale, c'est très 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 compliqué, voire impossible. Donc en fait, si on veut vraiment faire ça, ben, c'est repenser notre aménagement du territoire, et ça implique d'avoir d'autres considérations beaucoup plus larges. Donc voilà, donc c'est ça aussi dans ces gestes individuels, donc c'est vraiment ça le problème, c'est que en fait, beaucoup de gestes individuels dépendent en fait de changements plus structurels. L'exemple de la voiture, je viens d'expliquer, on parle aussi beaucoup de consommer hors des supermarchés, on parle du développement d'une agriculture de proximité par exemple, quelque chose qui revient très très souvent, une agroécologie. Mais le gros problème de l'agriculture, d'une agriculture de proximité, comment est-ce que vous voulez mettre ça en place quand il n'y a pas de terre? Simplement, parce que les terres sont maintenant concentrées chez des grands propriétaires. Quand nos pays sont empêtrés dans des accords de libre-échange qui mettent des petits agriculteurs en concurrence avec l'agro-business de tous les pays. Donc à partir du moment où on ne met pas en place des conditions pour permettre des changements individuels, on ne peut pas commencer à aller culpabiliser les gens, parce qu'on a le résultat qu'on a maintenant depuis plusieurs années, c'est que l'écologie n'est plus vendable. C'est ça qui est fou, c'est que si vous regardez, alors c'est pas le meilleur indicateur, mais regardez rien que les partis verts. Je sais pas en Suisse, je connais pas, mais que ce soit en Belgique ou en France, en tout cas, les partis verts, c'est vraiment pas grand-chose du tout, parce que c'est une écologie qui ne parle pas, c'est une écologie qui s'empêtre dans des débats à la con, désolé, mais comme la limitation de vitesse sur les routes, comme la chasse le dimanche, enfin je m'excuse, je suis pas du tout pro-chasse, mais je pense qu'il y a des questions qui sont beaucoup plus importantes que ça, et le fait que l'écologie se perde là-dedans, clairement, ça la décrédibilise, et ça décrédibilise l'écologie en général, parce qu'on n'entend jamais parler d'une écologie qu'on défend, en tout cas, je sais ici, beaucoup, une écologie qui est beaucoup plus sociale. Alors, je terminerai aussi. Donc, un dernier point, et puis je vous donne la parole, avec plaisir, c'est, du coup, une dernière idée avec laquelle j'essaie de tordre le cou, c'est, on entend souvent ça aussi, c'est que maintenant, l'écologie est partout. Il n'y a pas vraiment... L'écologie n'est ni de droite, ni de gauche. L'écologie, c'est... Voilà, ça doit être transversal à... On est tous dans le même bateau, etc. Alors moi, ça, c'est quelque chose qui vraiment m'irrite au point, parce que non, il y a différents types d'écologie, clairement. Il y a des écologies de droite, il y a des écologies d'extrême droite. J'ai parlé tout à l'heure, quand vous avez des écologistes, entre guillemets, qui parlent de supprimer une partie de la population, je pense qu'on peut qualifier cette écologie d'extrême droite. Quand on a une école, on a des technologies qui sont technophiles, on a une écologie qui est à l'œuvre maintenant depuis 20-30 ans, qu'on peut clairement qualifier de droite. C'est-à-dire que c'est une écologie qui est largement dominante dans nos gouvernements. C'est une écologie qui, en fait, est incapable d'envisager des solutions qui sortent de la logique de marché. C'est-à-dire qu'en gros, les seules solutions qui sont envisageables, j'ai parlé de la voiture électrique tout à l'heure, c'est des solutions qui sont compatibles avec, avec les, la marchandisation de nos sociétés, voire encore mieux, qui permettent de faire des profits, d'ouvrir des nouveaux marchés. Et c'est pour ça que le réchauffement climatique, par exemple, vous avez remarqué que c'est la question écologique qui est le plus sur le devant de la scène, alors qu'il y a d'autres problèmes au moins aussi graves. L'érosion de la biodiversité, par exemple, voire l'effondrement de la biodiversité. Mais le réchauffement climatique, c'est un avantage, c'est que ça permet d'ouvrir des nouveaux marchés. Des dispositifs anti-catastrophes, de la voiture électrique, du numérique, enfin bref, toute une série de choses. Et donc, bah, c'est en gros compatible avec le système, avec ce qu'on appelle la croissance verte. C'est pour ça qu'il y a une focalisation, à mon sens, des acteurs de l'économie. Même Total, j'ai vu que Total faisait de l'énergie verte maintenant, enfin, on se disait vert. Donc ça, c'est une écologie qui est de droite, c'est-à-dire une écologie, en gros, qui, bah, on voit... Et c'est ça aussi, de manière non idéologique, je pense qu'on voit l'échec de cette écologie, puisque ça fait 40 ans qu'on nous parle d'écologie, il n'y a pas une variable qui s'est améliorée. Si, il y en a une, le fameux trou dans la couche d'ozone, qui s'est améliorée. Pourquoi ? Parce qu'on a mis des freins au marché, justement. On a interdit des gaz qui provoquaient le problème. Donc, c'est pas en faisant des marchés du carbone et toute une série de choses comme ça. Donc, je pense que cette écologie, elle a clairement montré son incapacité et elle le montre de jour en jour. Vous avez vu que le dernier rapport du GIEC est sorti. Bon, là, maintenant, ils nous disent 3 ans. On sait très bien que dans 3 ans, il n'y aura rien qui est fait si on reste dans le cadre actuel. Donc, ce qu'il faut, c'est, à mon sens, une écologie de gauche, je pourrais dire. Alors, qu'est-ce que j'entends par gauche, vraiment au sens large, mais une gauche qui a des valeurs, encore une fois, de solidarité, de justice sociale, et surtout qui vise... Je ne sais pas si ça fait un peu pompeux de citer Karl Polanyi, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un célèbre économiste et qui avait vraiment un concept, moi je trouve, qui me parle beaucoup. Il disait il faut en fait réencastrer l'économie au sein de la société. C'est-à-dire que là, maintenant, nous sommes dans des sociétés où l'économie a pris le pas sur tout, a pris le pas sur l'environnement, sur la santé. Donc en gros, tout est géré selon une gestion comptable. Et on le voit, on l'a vu, le désastre que ça a été avec la pandémie. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est envisager une écologie qui réencastre cette économie au sein d'autres valeurs de société. Ça, c'est la seule et unique porte de sortie. Alors bon, c'est assez théorique. Concrètement, comment est-ce qu'on pourrait faire ? Quelles sont des mesures qui pourraient être envisagées comme ça, très très brièvement et très facile, entre guillemets, à prendre pour réencastrer cette économie ? Mais tout simple, le développement de services publics de qualité déjà, et qui n'obéissent pas à une logique marchande, mais qui obéissent à une logique de service public. On a parlé évidemment de la santé, on parle des transports, on pourrait parler de l'agriculture, on pourrait parler des banques. On a à Genève ici un secteur financier. Alors, on ne parle pas spécialement de nationalisation. Il n'est pas question de remettre tout comme ça s'est fait dans les années 30, dans les années 60-70, tout l'État, et où l'État, en gros, gère les choses de manière bureaucratique, exactement comme ça se fait dans le privé. Non, c'est d'avoir plutôt une logique sociale des services publics. C'est-à-dire, en gros, des services publics qui sont gérés, encore une fois, selon une logique qui n'est de service public et qui également dont la gestion est confiée aux syndicats, aux usagers, différents représentants élus, etc., mais pas simplement des conseils d'administration qui sont complètement obscurs, qui sont complètement déconnectés des réalités sociales et des réalités de terrain, mais plutôt des services publics qui sont vraiment orientés et qui sont gérés par ceux qui les connaissent le mieux. L'exemple de la santé est le plus simple à comprendre. On a vu maintenant, je ne sais pas si quelqu'un ici connaît des gens qui bossent dans la santé, mais qui est la plus à même de gérer un hôpital ? Les gens qui sont sur le terrain, les aides-soignants, les infirmières, les médecins, etc. Et donc, il faudrait des logiques de services publics de telle sorte. Et ce serait comme ça pour les transports et pour toute une série de choses. Autre mesure qui permet également aussi de désencastrer l'économie, désencastrer la société de l'économie, c'est la réduction du temps de travail, par exemple. C'est aussi quelque chose dont on parle beaucoup, on demande beaucoup aux gens, comme tout à l'heure je disais, de faire leurs courses dans des supermarchés, etc. Mais quand vous travaillez 39, 40, 42 heures par semaine avec les transports, etc., c'est impossible d'après d'aller faire ses courses chez l'épicier, etc., du coin. Les gens n'ont pas le temps, tout simplement. Les gens n'ont pas le temps, pardon, de s'impliquer durablement dans leur quotidien, d'organiser des initiatives collectives, style ville en transition, etc. Il faut le temps pour faire ça. Mais moi, je suis le premier à le savoir, je suis prof, donc j'ai un peu plus de temps libre que la normale, et c'est évidemment ce temps-là qui me permet de me pencher et d'étudier ces questions-là et d'essayer d'agir, etc. Si jamais je bossais dans une usine ou dans je sais pas quoi, 8-9 heures par jour, je sais que le soir, j'aurais pas envie de me taper un bouquin, une conférence, ou d'aller essayer de changer les choses sur le terrain. Donc voilà, ça, c'est des choses clairement qui pourraient être faites, et donc en gros, des mesures qui sont à la fois écologiques écologique et sociale. Et c'est ça, en fait, je terminerai un peu là-dessus, c'est que les seules mesures écologistes qui pourraient avoir du succès, c'est des mesures écologistes qui sont avant tout sociales, c'est-à-dire qui améliorent ici et maintenant les conditions matérielles d'une population. Et c'est seulement comme ça qu'on pourra avoir une écologie qui est non seulement sociale, mais également populaire. Je pense que ça, c'est vraiment le gros enjeu. C'est un peu ça, ce livre, je vous dis, hein, je suis pas naïf, mais j'espère en tout cas que ce soit un peu un outil pour essayer de conscientiser beaucoup d'écologistes à la nécessité d'avoir une écologie populaire, c'est-à-dire qui touche, qui se met vraiment au service des réalités sociales des gens et qui les comprend. Donc... Donc voilà, quelques points ici, je termine tout de suite, car vu si j'avais tout dit. Ouais, voilà, je pense que je vais m'arrêter ici, comme ça je ne vais pas vous embêter, je vais peut-être privilégier un peu un temps de discussion. Voilà, n'hésitez pas si jamais vous avez des désaccords avec ce que j'ai dit ou s'il y a des choses que vous voulez que j'approfondisse. Merci beaucoup.
Merci à toi.